Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Séance bien orientée à la Bourse de Paris. On va faire le point avec Enrique Cristino, vendeur institutionnel chez Portzamparc. Bonjour.
Bonjour.
Votre regard sur cette séance, il y a du Jérôme Powell d'un côté et des résultats de l'autre.
Oui, alors hier on a vu une très jolie séance sur les marchés américains avec un Nasdaq qui prenait plus de 2% en clôture et un S&P 500 au-delà du pourcent. Effectivement, Jérôme Powell a un petit peu, calmé le jeu. Très clairement, les derniers éléments de l'inflation aux US, ils sont pour quelque chose. Donc, on n'est pas sorti de cette spirale inflationniste, mais c'est moins fort. Et le marché commence à se projeter sur moins d'inflation et peut-être une baisse de taux in fine dans pas mal de temps. Mais en tout cas, pas de relèvement de taux très marqué à très court terme. Et c'est ce qu'il a salué, c'est ce qu'on on paye aujourd'hui sur le marché, parce que la plupart des valeurs sont en hausse, tout à l'heure Société Générale qui a fait une publication de son quatrième trimestre, qui était pourtant plutôt supérieur aux attentes.
Mais qu'est-ce qui n'a pas plu? Parce que le titre a passé une partie de la matinée dans le rouge.
Et oui, les analystes attendaient un peu plus de 800 millions de résultats nets sur le T4. Ils sortent 1,16 milliard, donc c'est plutôt très très bien. Alors, il y a des activités un petit peu moins dynamiques. On a vu que le résultat au global était 35% inférieur à celui des prévisions, notamment dû à une augmentation des provisions pour risque qui ont été multipliées par 5 à 413 millions d'euros. Ceci dit, le marché avait déjà intégré tout ça. Si on regarde l'ensemble des éléments, quasiment toutes les lignes de métier ont sorti des résultats un petit peu en hausse. La seule ombre au tableau, en fait, c'est sur la partie activité action, où les revenus sont en baisse de 11,5%. Ça, c'est un petit peu en dessous. Par contre, sur le reste, les activités ont été tirées par les activités de taux, le crédit, le change, où les revenus ont grimpé de près de 56%. Donc ça, c'est plutôt très très bonne chose. Pareillement, sur les activités financement et conseil, en hausse de 17%. Ce qui, à mon sens, au début, un petit peu déplu au marché, c'est au global, en fait, la distribution aux actionnaires. Pour si on rajoute le dividende et les rachats d'actions, c'est 1,8 milliard. Donc 1,7 en euros par action en dividende et un programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros. Les analystes, le consensus attendait un dividende un petit peu supérieur, 1,73 euros par action, et surtout un programme de rachat d'actions plus du double, au-delà de 900 millions d'euros. C'est ça, à mon avis, qui a un petit peu déplu au marché. Après, sur les perspectives de la Société Générale, tout est un petit peu au vert. Il prévoit une année de 2023 toujours en croissance, malgré une période un peu de transition avec ce qu'on observe actuellement. Par contre, sur les objectifs 2025, les éléments financiers sont complètement renouvelés.
Merci beaucoup, Enrique Cristino, vendeur institutionnel chez Portzamparc. Il est 11h06, l'essentiel de l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco. Stéphanie Collot.
Rebonjour Stéphanie.
Rebonjour Stéphanie. À la une, ce sont les résultats historiques de Total Energy. Le groupe affiche le meilleur bénéfice de son histoire en 2022 à 20,5 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an, tiré par les prix et l'augmentation de sa production. Jusqu'à 40% des bénéfices devraient revenir aux actionnaires, dont 2 milliards de dollars de rachat d'actions au premier trimestre. Écoutez la réaction de François Asselin, le président de la CPME. Il était l'invité ce matin de Good Morning Business.
Ah, je suis jaloux. Écoutez, mais attendez, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Une entreprise qui gagne de l'argent, qui gagne beaucoup, c'est quand même une bonne nouvelle. Si vous aviez fait votre une en disant catastrophe, Total fait des pertes abyssales, on l'a vu sur les chiffres du commerce extérieur, ça serait un peu plus inquiétant. Et j'aime mieux vous dire que beaucoup vont être à la fête avec de tels résultats. Savez-vous que les premiers actionnaires de Total, ce sont les salariés eux-mêmes. 6,5% je crois du capital de Total appartient aux salariés. Eh bien, j'aime mieux vous dire que lorsque Total va distribuer les dividendes, les premiers bénéficiaires, parmi les premiers bénéficiaires, il y aura les salariés, il y aura aussi la participation, il y aura l'intéressement. Bref, mais ça participe, plus les impôts versés, ça participe à tout le monde.
Autre record pour Maersk, cette fois le géant du transport maritime enregistre le meilleur bénéfice de son histoire à plus de 29 milliards de dollars en hausse de 63% sur un an, performance liée à l'augmentation des prix du fret par conteneur. Dans le secteur bancaire, Société Générale fait mieux que prévu. Le produit net bancaire équivalent du chiffre d'affaires ressort à 28 milliards d'euros en hausse de près de 9% sur un an, mais le bénéfice net est quasiment divisé par 3 à 2 milliards d'euros, plombé par la cession de sa filiale russe Rosbank. La banque confirme ses objectifs pour 2025. De son côté, Amundi publie un bénéfice net en recul de 20% sur un an à plus d'un milliard d'euros. C'est néanmoins mieux que prévu. Le leader européen de la gestion d'actifs enregistre une collecte nette de 15 milliards d'euros au quatrième trimestre. En France, les enseignes en difficulté s'accumulent dans le retail. La marque de chaussures André est à nouveau placé en redressement judiciaire. Décision du tribunal de commerce de Nanterre. La maison mère a déclaré la cessation de ses paiements le 27 janvier. Le coup de frein de l'emploi salarié privé au quatrième trimestre. Il ressort stable après 7 trimestres consécutifs de nette hausse. Dans le détail, l'intérim augmente de nouveau alors que l'emploi dans l'industrie et le tertiaire ralentit. Et puis la mobilisation contre la réforme des retraites va se poursuivre dans les raffineries. La CGT de Total Énergie reconduit le mouvement. Les expéditions de carburant vers les dépôts sont suspendues sur 4 sites.
Merci beaucoup Stéphanie. À la Bourse de Paris, le CAC est en hausse de 0,51%. Place au débat.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Au sommaire ce matin, Jérôme Powell qui a rassuré les marchés financiers, l'INSEE qui confirme que l'économie française ne devrait pas entrer en récession au premier semestre et bien sûr les résultats d'entreprise avec des résultats records pour les banques et pour les compagnies pétrolières. Autour de la table aujourd'hui, Céline Picmal-Prade. Bonjour, merci d'être avec
Bonjour
nous,
Stéphane.
Présidente de Picmal Auton Investment et Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonjour Thibaut et merci également d'être avec nous. On va peut-être commencer par les résultats, c'est l'actualité la plus fraîche, résultat de Total Énergie, évidemment, résultat record, et résultat dans le secteur bancaire. On en a eu plusieurs, Société Générale, Stéphanie en parlait, mais on a eu BNP Paribas, on a eu aussi d'autres banques en Europe avec des résultats records. Votre regard, Céline, sur ces publications trimestrielles et annuelles?
Eh bien, Stéphane, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a vraiment un contraste qui est très saisissant entre les sociétés qui publient des résultats records, comme on le voit ce matin avec Total, comme on l'a vu la semaine dernière avec Schlumberger qui a publié des résultats qui étaient en hausse de 75%, services pétroliers. On a vu également des sociétés dans le secteur industriel publier d'excellents résultats. Et puis de l'autre côté, les sociétés technologiques, à l'image d'un Google, qui a publié de la publicité qui était en baisse de 2% sur le trimestre précédent, une marge opérationnelle qui perdait 6,6 points, et des profits qui étaient en baisse de 31%. Donc vraiment une situation qui est extrêmement contrastée aujourd'hui et à mon sens qui en dit long sur le changement d'environnement que nous connaissons depuis maintenant plusieurs trimestres. En 2022, on a eu une baisse du Nasdaq qui était liée au fait que on a eu une baisse de la valorisation. On a eu des taux d'intérêt qui ont monté, donc on s'est dit ben naturellement ce sont les sociétés les plus chères qui doivent le plus être impactées, donc le Nasdaq avait perdu 35%. En 2023, ce qu'on voit, c'est que on a maintenant non pas une baisse des valorisations, mais une baisse des profits pour ces sociétés technologiques. Et c'est, à mon sens, ce qui va donner le là pour la suite de l'année 2023. Les bénéfices ne seront pas au rendez-vous pour ces sociétés technologiques, mais vont être au rendez-vous pour les sociétés qui font des biens réels, pour des sociétés qui sont plutôt industrielles, des sociétés qui sont dans les mines. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi les résultats de Freeport, McMoRan, qui sont sortis la semaine dernière. Et Freeport, c'est le plus gros producteur mondial de cuivre. Et le PDG de Freeport nous a dit, écoutez, j'ai jamais vu un environnement aussi attractif pour le cuivre, parce que le stock de cuivre est très bas, la demande augmente puisqu'on passe aux véhicules électriques, et dans un véhicule électrique, j'ai 4 fois plus de cuivre que dans un véhicule thermique, et j'ai eu très peu d'exploration au cours des 10 dernières années en cuivre. Donc je suis dans une situation qui est excellente. Donc on a des sociétés qui sont dans une situation très forte, à l'image donc de ces sociétés pétrolières, sociétés énergétiques, sociétés industrielles, et de l'autre côté, ces sociétés technologiques. Et pour l'instant, en janvier, qu'est-ce qui a monté ? Ça a été les sociétés technologiques, paradoxalement, puisque le Nasdaq a pris plus de 15% en un mois. Mais là aussi, souvenons-nous de ce qui s'est passé en 2001. Si on refait un retour en arrière, en 2001, après la chute de 45% du Nasdaq en 2000, on avait eu un Nasdaq qui avait fait plus de 25% sur un mois. Et derrière, entre février et avril, moins 30%, 35% pour ce même Nasdaq. Et ce qui est plus intéressant, c'est que si on se remet dans le contexte de 2001, entre février 2001 et 2007, la fin de l'année 2007, le Nasdaq a fait moins de 35%. Et dans le même temps, les sociétés de pays émergents, donc les sociétés qui étaient plus liées au changement d'environnement, avaient fait plus 155%. Donc, si j'avais un conseil à donner aujourd'hui à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, c'est profiter de ce rebond aujourd'hui sur des sociétés qui n'ont pas des bons bénéfices pour réinvestir sur les sociétés qui ont des bonnes publications de résultats et qui vous disent que les choses vont aller bien pour elles pour les 3 à 5 prochaines années.
Donc, changement d'environnement qui va forcément entraîner une rotation. C'est ça le message, Thibault ?
Alors, c'est beaucoup de choses hein, qui sont dites en peu de temps, donc c'est difficile de répondre à tout. Ce qui est intéressant, c'est de noter que est-ce qu'il y a un changement d'environnement ? La difficulté, c'est qu'en ce moment, on a un changement d'environnement tous les mois. C'est-à-dire qu'on a eu quand même, sur les 5 derniers mois, quasiment 10% d'écart en moyenne entre les émergents ou les US ou l'Europe, avec des rotations qui dépendent en fait un peu de ce que chaque banquier central dit. À chaque fois qu'il dit « non, mais finalement, on va monter les taux plus », on a une rotation qui est très en défaveur de la tech, et ainsi de suite. Et pourquoi c'est difficile ? C'est difficile parce qu'en fait, on n'a rien de normalisé. C'est-à-dire qu'on a des zones qui sont fermées puis qui rouvrent, d'autres qui referment et qui rouvrent en décalé. Dans le même temps, on a des devises qui varient de 10 à 15% assez rapidement. Ce qui fait qu'en fait, pour certains secteurs, on se compare à des trimestres très faibles. Pour d'autres, on se compare à des trimestres extrêmement forts. Et tout ça rend la situation quand même assez compliquée à lire. Alors, c'est plus facile pour des secteurs, si on parle de valeurs technologiques, mais qui rentrent aussi dans la logique industrielle qui a été faite, par exemple, comme ASML. Vous voyez des carrés de commandes très longs, finalement, il n'y a pas de grande variabilité et c'est tout le temps excellent. Quand on est sur des secteurs d'équipement informatique ou d'ameublement, où là il y a eu un 2021 excellent et du coup en 2022 des choses plus faibles. Quand on prend des secteurs comme par exemple effectivement la tech aux US, faut se rappeler qu'au quatrième trimestre en moyenne, on est 15% plus haut sur le dollar que l'année d'avant. Donc pour toute la partie qui est exportée en termes de chiffre d'affaires et de marge, ça donne des effets énormes. Donc ce qui est très difficile, c'est qu'en fait le marché aujourd'hui, compte tenu de tous ces effets de base et de ces lisibilités qui sont parfois assez limitées, prête de manière assez étonnante assez peu d'importance aux résultats. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés dans les GAFAM qui ont fait des publics qui étaient ternes, qu'on fait des chiffres assez excellents derrière. On peut penser à Microsoft, qui sur le coup a pas fasciné tout le monde et qui a pris ses 15% dans les 5 séances qu'on suivit. Donc on voit qu'aujourd'hui on a un marché, on le voit encore avec la Société Générale aujourd'hui, qui est moins intéressé par les valeurs que par les thématiques.
Résultat record de Total Energy, c'est la plus forte baisse du CAC ce matin. Société Générale qui dépasse les attentes sur le T4. Le titre maintenant est en très légère progression.
Oui, mais vous voyez bien que les résultats, c'est déjà très loin dans le rétroviseur. Vous parlez de Maersk, des résultats hallucinants l'année dernière. Quand on a un prix du fret Pacifique qui avait été multiplié par 10 et qui est redivisé par 10, mon investisseur, il est plus intéressé de savoir quel est le niveau actuel pour les 6 prochains mois que de savoir combien on a gagné d'argent quand on était à 10 fois le prix, en fait. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde qui est en train de changer. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui crée une tendance de court terme ? Et j'insiste, de court terme. C'est que les banquiers centraux ont voulu garder un discours assez vigilant sur l'inflation et se sont basés non plus sur les chiffres mensuels, qui sont en forte décélération, mais sur les chiffres annuels qui restent très élevés. Or, on reste sur 3 mois où les effets de base sont énormes. Je vous rappelle qu'en mars l'année dernière, le pétrole était à 127 $. Sur un dollar qui, par ailleurs, était très haut. Donc là, on va arriver à des effets de base en Europe comme aux US qui vont être énormes. Donc ces chiffres vont baisser. Et donc le marché a pris le parti de dire on va vers des baisses de taux. Et finalement, les baisses de taux, c'est la composante de valorisation qui a le plus bougé au cours des dernières années et qui est la plus importante en termes de paramètres. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, il faut aller vers les valeurs qui étaient chères. D'autant plus que ces valeurs sont en train de lancer des vagues de licenciements qui donnent l'impression qu'ils ont un peu quitté le « on recrute 20 000 personnes, on verra bien » vers des sujets de marge. Donc, la tendance du marché, elle est là. Elle est aussi à ce qu'on pourrait appeler, si on voulait faire de l'anglicisme, un relief trade, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude massive sur l'économie. Tout le monde se rend compte que globalement, c'est pas vraiment la cata Et donc du coup, dans ce cadre-là, il y a un peu d'inversion de ce qui s'est fait de ces derniers mois. Je pense qu'on est encore sur une tendance, entre guillemets, premier trimestre, qui est de dire, voilà, les menaces de l'année dernière s'effacent un peu. Donc on efface un peu des grands mouvements de l'année dernière. Ça ne nous dit pas grand-chose de ce qui se passe entre avril et décembre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit accepter un marché qui est un marché d'accalmie sur les perturbations, qui est un peu déconnecté de la microéconomie sur ce type de résultats qui paraissent en fait finalement assez dans le rétroviseur, et plus intéressé par une correction de 3 mois sur des perspectives de long terme qui restent quand même assez incertaines.
Au niveau boursier, est-ce qu'on revient sur le segment value et notamment sur les bancaires qui ont publié des bons résultats et surtout qui ont un environnement du fait de la remontée des taux qui leur est plus favorable?
Alors, les segments, c'est pas forcément comme ça que j'apprendrai les choses, mais je voudrais dire aujourd'hui, pour compléter ce que dit Thibault, qu'effectivement là, le marché en ce moment, il est guidé par la peur de rater la hausse. Donc on avait peur de perdre l'année dernière, maintenant on a peur, c'est le fear of missing out, la peur de rater la hausse. Et je voudrais reprendre cette phrase de Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur, vivez dans l'espérance ». Et je dirais
« On cite vivez... même Jean-Paul II sur BFM Business.
Voilà, vivez dans la raison. Donc effectivement, Thibault le rappelait tout à l'heure, ce qui est important, ce sont quand même les chiffres. Ouais. Et les chiffres aujourd'hui, si on les regarde, on ne pourra pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Donc aujourd'hui, l'investisseur, il peut se dire, soit il croit qu'effectivement on aura plus de croissance, ce qui semble être le cas, puisque quand on regarde les chiffres de l'emploi aux États-Unis, on a 1,9 offres d'emploi pour un chômeur, donc on est plutôt dans un environnement de croissance. Quand on voit ce qui se passe en Chine, on voit qu'avec la réouverture, on aura plus de croissance en 2023, donc soit on croit à la croissance, mais dans ce cas-là, la Fed ne pourra pas baisser ses taux comme nous l'attendons à partir de juin et on va rester sur un environnement de taux élevé. Et dans ce cas-là, il faut faire attention aux valorisations. Ou deuxième cas de figure, l'inversion de la courbe de taux nous indique qu'on va rentrer en récession. Et si nous rentrons en récession, nous savons que mécaniquement, les bénéfices d'entreprise vont être en baisse alors qu'on attend aujourd'hui une hausse de 9% des bénéfices en 2023. Donc aujourd'hui, c'est pas tellement un segment de marché qu'il faut privilégier, c'est qu'à mon sens, il faut réfléchir, il ne faut pas penser avec sa peur, qu'elle soit peur de perdre ou peur de rater la hausse, c'est il faut réfléchir avec sa raison. Et la raison, c'est à la fois être attentif aux valorisations pour ne pas se faire piéger si jamais les taux d'intérêt restaient élevés. Et la deuxième chose, être attentif à la croissance de bénéfices, parce qu'effectivement, comme le disait Thibault, c'est pas le passé qui compte, c'est l'avenir. Soyez avec les sociétés qui vont avoir une croissance de bénéfices importante au cours des années à venir. Et à mon sens, ça sera les sociétés qui vont profiter de la révolution industrielle que nous sommes en train de connaître. Parce que comme nous l'a indiqué le chancelier allemand il y a 2 semaines, nous connaissons aujourd'hui la plus grande révolution industrielle que nous ayons connue depuis la fin du 19e siècle. On passe des énergies fossiles à l'électrique. Et ça a une incidence énorme sur beaucoup, beaucoup d'acteurs, que ce soit dans l'immobilier, dans l'industrie, dans les mines, dans l'énergie. Et c'est à ça qu'il faut être attentif. Et c'est là-dessus qu'il faut se positionner avec différents acteurs. Je parlais de Schlumberger tout à l'heure, mais ça peut être aussi Mingyan qui fait des éoliennes en Chine, qui va se traiter à 12 fois les profits. Donc il y a des idées, il y a des choses à faire, mais il faut sortir un petit peu de value contre croissance. Il faut aller chercher des valeurs qui soient à l'intersection des deux.
Voilà. Et on parlera de la transition énergétique tout à l'heure à 11h35 avec Benjamin Louvet de Ophi Invest Asset Management. Je vois bien l'un et l'autre que vous avez envie de parler des banques centrales, parce qu'évidemment, pour parler des perspectives, on est obligé de prendre en compte l'évolution de la politique monétaire. Hier soir, Jérôme Powell a rassuré les marchés, finalement, malgré les trop bons chiffres de l'emploi américain qui avaient été publiés vendredi. Ce qu'a dit Jérôme Powell, en gros, c'est que la désinflation avait bien commencé aux États-Unis, même si le marché de l'emploi restait solide. Il y avait un risque qu'il durcisse son discours?
Vous savez, je crois que malheureusement, il faut être un peu objectif. Hein. Quand un marché a envie de monter, tous les discours, ils ont l'air positifs.
Et même les banquiers sont trop.
Ouais, là, honnêtement, le discours, il n'est pas très loin de ce qu'on avait en tête. C'est-à-dire qu'il dit, si les chiffres de l'emploi restent inflationnistes et très forts dans les mois à venir, il faudra plutôt monter les taux plus. Et si ce n'est pas le cas, il y aura moins besoin de les monter. Enfin, je suis désolé, mais son discours, il est quand même très ouvert dans les perspectives. Donc, il n'est pas très différent de ce qu'on attend.
Mais c'est ce que font les banquiers.
Et au final, le marché a pris 2, puis il est allé à moins 0,5, puis il est revenu à 2. La réalité, c'est que ça donne, on dit plus, à mon avis, que sur le marché, que sur les propos de Jerome Powell en ce moment. Ce qu'il faut noter, c'est que le sujet américain est un sujet que nous, on s'exprime dessus, de ces financières à Bevel, assez durablement sur le sujet, c'est de dire, on est dans un monde où on est plus dans un monde de baisse démographique, qui va entraîner une baisse de la consommation, parce qu'il y aura moins de consommateurs, mais aussi des marchés de l'emploi saturés partout. Et donc cette idée que pour calmer l'inflation, il faut faire remonter le chômage, je pense que c'est une idée qui a 20 ans de retard. C'est-à-dire que c'était au Japon, on n'a jamais eu de problème d'inflation, on a toujours eu un emploi complètement saturé. Donc l'idée qu'on ne peut pas avoir une inflation qui rebaisse si le taux de chômage ne remonte pas, c'est vrai dans des économies à forte natalité. Dans une économie où le nombre d'arrivants sur le marché de l'emploi n'arrête pas de baisser et de facto est plus faible que les partants, c'est un univers dans lequel j'ai du mal à voir un taux de chômage remonter fortement. Et de facto, on vient d'avoir des vagues de licenciements significatives. On peut pas dire que ça a eu le moindre effet. Mmh. Alors après, c'est vrai que décembre, janvier, faut le rappeler, quand on regarde les chiffres de l'emploi, sont des chiffres qui ont des composantes de révision saisonnière énormes. C'est-à-dire que les chiffres qu'on nous donne sont pas les chiffres bruts, sont les chiffres révisés. Or, comme on a eu plus de mal à recruter en décembre, on a eu aussi moins de gens à enlever en janvier, donc ça donne des chiffres qui sont un peu faux. Le point reste juste de dire qu'on reste dans ce scénario, qui est de dire qu'on pense que la croissance mondiale reste plutôt dans des dynamiques baissières, compte tenu de la démographie qui est baissière partout, mais que le paradoxe de ça, c'est que ça crée plutôt des marchés de l'emploi de plus en plus forts et de plus en plus résilients, et que quand les gens n'ont pas peur de perdre leur emploi, ils n'arrêtent pas de consommer.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire
l'épargne baisse et la conso reste hyper forte.
Ça veut dire que la Fed a tort de... s'arc-bouter, mais en tout cas de focaliser sur le marché de l'emploi comme elle le fait.
La Fed, elle a tort. Il y a de l'inflation à peu près partout.
Ouais.
Et quand l'inflation aura baissé, elle changera. Donc pour l'instant, on n'est que dans le vocable. Mais l'idée de dire que c'est quand même un peu perturbant de voir dans des vagues de licenciements et dans une désinflation 500 000 créations d'emplois, ça paraît quand même assez légitime. Enfin, je veux dire, c'est quand même difficile de s'adresser. Donc le point est de dire que je pense qu'elle a raison. De toute façon, à ce stade, faut pas se mentir. Elle a beaucoup monté les taux. Tout le monde a poussé des cris d'Orphée, l'inflation est en train de rebaisser avec une économie qui tient bon. Enfin, si on est complètement objectif, à ce stade, les résultats qu'on a pour l'instant sont des résultats pour lesquels on aurait signé sans la moindre hésitation au cours des derniers trimestres. Donc pour l'instant, on n'a pas d'accusation à faire. Le seul truc est de dire, il n'est pas dit que le taux de chômage remonte tant que ça, et ça va créer plutôt une consommation qui reste dynamique et une économie assez régulière. Et donc je pense que ceux qui sont les chances de voir une consommation qui s'effondre, à mon avis, n'ont pas complètement bien intégré ce changement sociétal qui est un peu durable. Et je pense qu'à ce titre, les comparaisons avec des périodes comme 2008 où on attaquait avec plus de 10 de chômage des situations de ralentissement sont à mon avis pas comparables. Après, honnêtement, pour l'instant, le job est bien fait. On crie tout le temps en disant qu'elle fait une erreur totale et quand on voit les résultats, ça n'a pas l'air si mal. Donc laissons leur le bénéfice du doute. Ils ont maintenant quelques mois pour voir un peu ce qui se passe. On aura l'occasion après d'être posé un peu plus clairement sur le sujet. Maintenant, honnêtement, vendredi, il n'y a pas que la Réserve fédérale qui a été surpris pour les chiffres de l'emploi, même quand on était confiant sur le fait qu'il serait bon.
On va les rappeler, ces chiffres de l'emploi. Hein. 517 000 créations de postes en janvier aux États-Unis, c'était pratiquement trois fois le consensus. Céline, qu'est-ce que vous attendez en matière de politique monétaire aux États-Unis ? Le scénario central pour l'instant, c'est un plateau de taux cet été et peut-être une première baisse d'ici la fin de l'année. Ça fait débat.
Oui, alors pour compléter ce que disait Thibault sur ce qui s'est passé du côté des banques centrales et notamment aux États-Unis, ce qui est extrêmement paradoxal, c'est la dichotomie entre le discours et la réalité. Et quand on regarde aujourd'hui le chiffre du crédit, enfin l'environnement monétaire aux États-Unis, on n'a jamais été aussi accommodant aux États-Unis depuis février 2022, soit avant la vague de hausse des taux. Et c'est sûrement ça qui explique l'optimisme actuel des marchés financiers, puisqu'on dit toujours « don't fight the Fed ». Aujourd'hui, la Fed, elle est extrêmement accommodante. Donc, il y a vraiment un écart entre ce discours qui semble ferme et la réalité. Et notamment, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas eu de baisse du bilan de la Fed comme celui qui était prévu l'année dernière, en fin d'année 2022. Donc, on a plutôt eu un bilan de la Fed qui est resté élevé, avec une politique qui restait accommodante. Et c'est ça qui se sent, notamment du côté du marché de l'immobilier aux États-Unis. On voit que les choses s'améliorent. Donc effectivement, on a cet écartement entre la position et la réalité. Et effectivement, quand vous mettez de la liquidité dans un système, bah du coup, le marché financier se comporte bien parce que il est poussé par cette liquidité. Donc aujourd'hui, on a la liquidité qui est favorable et on a l'économie qui se porte bien avec l'emploi qui est bon. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, la gestion de cet environnement monétaire, ce pilotage va être très fin et va être difficile. Et en tant qu'investisseur, on ne peut pas parier sur le fait que ça sera forcément parfait. Donc on est obligé en tant qu'investisseur de jouer avec les probabilités et de prendre en compte le fait qu'il est possible que la Fed n'arrive pas à piloter aussi finement qu'elle le souhaiterait. Et on a effectivement deux risques. Soit elle n'aura pas assez finement joué la hausse des taux et donc la liquidité est trop importante. Et dans ce cas-là, on peut avoir
un redémarrage de l'inflation. Et donc, ça va être difficile de baisser les taux. Soit à l'inverse, elle va avoir trop serré et on va avoir une récession. Donc, trouver le juste milieu, c'est quand même risqué. Et donc, il faut quand même rester extrêmement attentif. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, fonctionner non pas avec sa peur, mais avec sa raison. Voilà.
J'aimerais qu'on termine avec les prévisions de l'INSEE pour l'inflation et la croissance française qui ont été ajustées hier en fin de journée. L'INSEE prévoit une inflation à 6% au début de l'année 2023 en France, à 5% au mois de juin. Et en ce qui concerne la croissance, ce que nous dit l'INSEE, 0,2% de croissance en séquentiel au premier et au deuxième trimestre. La prévision précédente, c'était plus 0,1 et plus 0,3. Morale de l'histoire, Thibault, on ne va pas entrer en récession.
Mais je pense que
pour le symbole, c'est l'épaisseur du trait.
Voilà, il est sympathique de noter qu'effectivement, on avait des scénarios du pire qui étaient en vogue l'année dernière et qui se matérialisent absolument pas. Mais ça, je pense qu'on le voit tous autour de nous. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où personne n'a peur de perdre son emploi, personne n'arrête de consommer, et on a quand même toujours plus de discours de sociétés qui ont des problématiques d'approvisionnement que de sociétés qui disent qu'il n'y a plus aucune demande, sauf peut-être dans des secteurs où il y a eu des booms en 2021 qui entraînent des vagues de rattrapage. De facto, en revanche, il ne faut pas se mentir, le potentiel de croissance dans des zones qui ont la démographie de l'Europe sont des potentiels de croissance qui sont très faibles. Et quand on traîne autour de trimestre, autour de 0,1, 0,2, finalement qu'on soit, on serait à moins 0,1, plus à plus 0,3.
Ça ne changerait pas grand-chose.
Ça n'aurait pas d'impact. Il faut accepter le fait que dans les années à venir, on aura sûrement un trimestre négatif tous les ans au minimum, et que ça ne change pas grand-chose à la photo globale. Donc je pense qu'il faut maintenant vraiment séparer, on va dire, une économie qui est au potentiel, ce qui ne se pose pas de problème pour les sociétés, qui ont parfois des marchés nouveaux, des problématiques nouvelles, même dans un monde qui n'a pas une croissance énorme, et séparer ce qu'on appelle une dépression, qui détruit l'économie. Je vous rappelle juste que le quatrième trimestre 2008 en Allemagne, c'est moins 12,8. En moins 12,8, c'est autre chose, quoi. Mais plus 1 à plus 0,2, très honnêtement, d'autant plus que je vous rappelle que dans le PIB, il y a des choses comme les variations de stock, qui au cours des 2-3 dernières années ont été massives. Ça me semble pas forcément extrêmement important. En revanche, le point qui est très important, c'est quoi ? C'est qu'on avait des anticipations qui étaient très élevées, qui sont dégradées jusqu'à arriver à des niveaux quasi nuls. L'important, c'est d'arrêter cette dégradation. Parce qu'à un moment, là, on peut aller vers des niveaux très négatifs. Et quand on arrive à ça, pour le coup, on change le mode de consommation et le mode de fonctionnement de la population. On a arrêté cette dégradation. Le fait de remonter un peu montre que cette période de pessimisme est terminée. C'est très bien comme ça. Savoir si on sera à 0,1 ou 0,2, honnêtement, je pense que pour le coup, c'est plus vraiment le sujet important. C'est plus la fin de cette tendance à la dégradation des perspectives 23 que chez Financière Abbeville, on va retenir.
Céline ?
Et effectivement, je pense que pour compléter ce que disait Thibault, le grand facteur qui change la donne quand même en 2023, c'est la Chine. Puisque si on met les choses en perspective, on attendait 3% de croissance du PIB chinois en 2023. Maintenant, le FMI nous parle de 5,5%. Quand on passe de 3 à 5,5, ça change la donne, puisque c'est 2/5 de la croissance mondiale qui vient de la Chine. Et un point de croissance du PIB chinois, c'est 0,25 points de croissance mondiale en plus.
On l'a bien compris, c'est une locomotive pour la croissance mondiale,
mais
en même temps,
c'est un énorme changement.
La Chine qui redémarre, c'est peut-être aussi une hausse des matières premières.
Donc quand on pilote une banque centrale aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on ne peut pas faire l'économie de regarder uniquement l'Europe ou les États-Unis, il faut qu'on regarde le monde. Et aujourd'hui, le monde, c'est un moteur qui s'est réallumé, qui était éteint depuis 2 ans. Et donc, on était dans une situation compliquée qui, paradoxalement, a beaucoup bougé. On a effectivement donc la Chine qui redécolle, les États-Unis qui se portent pas si mal avec, comme je vous le disais tout à l'heure, de la liquidité qui est injectée alors qu'on était en train de vivre un resserrement monétaire. Et en Europe, on n'a pas eu crise énergétique. Donc, effectivement, on a eu un triptyque qui a été en faveur de la croissance. Et maintenant, il va falloir gérer un environnement dans lequel il y a plus de croissance. Et les conséquences, on ne les connaît pas encore, mais potentiellement, ça peut être on n'aura pas, comme je le disais tout à l'heure, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Donc si on a plus de croissance derrière, on risque d'avoir des taux qui sont plus élevés pour plus longtemps.
Mais on a eu Jean-Paul II, c'est déjà ça.
Tout à fait, voilà.
Merci à tous les deux d'être venus en plateau ce matin. Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Houghton Investment. Et merci à Thibault Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Dans un instant, on va faire un point sur les marchés, puis on parlera matières premières avec Benjamin Louvet de Ophi Invest Asset Management.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Dernière demi-heure de l'émission. Dans un petit quart d'heure, on vous parlera de la sélection BFM Patrimoine, notre portefeuille, on verra son évolution et surtout on vous parlera de quelques changements qu'on vous expliquera avec nos invités en plateau. Dans quelques minutes, on parlera matières premières, ce sera avec Benjamin Louvet. Mais d'abord, les marchés financiers. Gilles Santacreux est en duplex avec nous, trader et administrateur du site boursicoté.com. Le CAC toujours en hausse, hein, plus 0,58%. On s'est déjà parlé tout à l'heure, on disait il y a deux composantes, Jérôme Powell d'un côté et les résultats d'entreprise de l'autre.
Oui, alors ces deux composantes, comme je vous l'indiquais déjà à l'instant, elles sont en train d'être digérées par les marchés. Là, on est vraiment dans une phase où on neutralise, hein, on a grossièrement une zone intraday d'évolution entre 7155 et 7180 points. Dans cette zone, pour l'instant, il n'y a pas énormément de volatilité par manque justement de catalyseurs qui pourraient justement justifier une reprise. Je dirais que ce qui fait office de game changer, hein, par rapport au marché depuis la fin de la semaine dernière, c'est le changement de direction du dollar. On a un dollar index qui est repassé au-dessus des 103. On était sur une dynamique baissière depuis le mois d'octobre qui avait permis justement à la hausse de devises ou de matières premières justement par rapport à ce dollar. Et là, c'est en train de changer. On le voit notamment sur l'euro-dollar, hein, qui est redescendu à 1,0780. On sortirait de cette dynamique baissière si on parvenait à repasser au-delà des 1,0780. On a l'or aussi qui était sur une grosse dynamique haussière et qui a brusquement chuté. Donc on est actuellement autour des 1880. Il faudrait pas descendre sous les 1850 au risque d'accentuer justement cette dynamique baissière. Si on parvenait à repasser au-dessus des 1910 dollars l'once, eh bien on sortirait justement de cette dynamique baissière. Et dans ce contexte, on a les crypto-monnaies qui ne bougent plus trop. On a un Bitcoin qui reste autour des 23 000 dollars pour un Bitcoin. Je le vois aussi au niveau de mes algorithmes, c'est-à-dire que là où les algos étaient plutôt baissiers sur le dollar, eh bien je commence à avoir des positions haussières contre le franc suisse par exemple ou contre le yen. Il va falloir justement surveiller par rapport au discours de Jérôme Powell le changement d'évolution de ce dollar qui pourrait, je dirais, rebattre les cartes au niveau du marché. Pour l'instant, pas trop d'effet sur les indices européens. On a cette phase de neutralisation. Je rappelle les niveaux d'alerte, hein, premier niveau d'affaiblissement sous les 7110 points, premier niveau d'alerte à 7025, puis retournement à 6950. Pour l'instant, on reste sur une neutralisation, mais dans une dynamique qui reste haussière. On attend un retour sur la zone des 7200, qui, en cas de cassure, eh bien, pourrait réouvrir les objectifs donc de poursuite en direction des 7250, voire les plus hauts historiques qui avaient été marqués en début d'année dernière.
Merci beaucoup, Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. On va parler matières premières à présent.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Parce que la flambée du coût des matières premières a un impact sur le développement des énergies renouvelables. On va expliquer tout ça avec Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonjour Benjamin. Merci d'être en ligne avec nous. Les statistiques sur le développement de l'éolien en Europe viennent d'être publiées. Le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que les nouvelles sont pas très bonnes.
Non, les nouvelles sont pas très bonnes. Effectivement, selon Wind Europe, on a installé sur l'année 2022 environ 15 gigawatts d'éolien en Europe. Alors, ça vous parle pas forcément. Il faut savoir que si on veut se conformer à la stratégie européenne de réduction des émissions et donc atteindre nos objectifs climatiques, il faudrait installer en fait 30 gigawatts chaque année de façon à pouvoir assurer la transition énergétique nécessaire pour limiter le réchauffement climatique. Le problème est même plus vaste que ça, parce que quand on regarde les chiffres et les annonces qui sont faites pour l'année 2023, eh bien on constate que la situation semble encore plus mal engagée, puisque pour l'instant les commandes de turbines éoliennes par l'industrie pour l'année 2023 se portent à 9 gigawatts seulement. Donc on est très en dessous des objectifs, et ça c'est un vrai problème pour les objectifs de transition énergétique qu'on a aujourd'hui.
Quel rapport entre ce sujet et les matières premières ?
Alors c'est vrai que le rapport comme ça est pas forcément facile à faire au premier abord, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on discute avec les compagnies qui produisent des éoliennes, elle vous explique que l'essentiel du problème aujourd'hui, c'est la hausse du prix des intrants et notamment du prix des matières premières. Certains d'entre eux déclarent que sur les deux dernières années, on observe une hausse de 40% du coût de ces matières premières dans le coût de fabrication. Donc évidemment, ça a un impact global sur l'ensemble de l'attractivité de ce secteur. Alors, on peut parler du prix des éoliennes d'une façon générale. L'Agence internationale de l'énergie sort tous les ans un rapport sur le développement des renouvelables dans le monde et faisait ressortir que, effectivement, avec la hausse des prix qu'on a connue ces dernières années, après la crise Covid, avec la reprise post-Covid, eh bien, on a annulé quasiment 4 à 5 ans de baisse des prix. Il faut savoir que c'est un vrai changement parce que pendant des années, depuis qu'on a développé cette industrie et qu'on a enclenché la transition énergétique, tous les ans, le prix des éoliennes baissait à cause des économies d'échelle notamment. Eh bien, depuis 2 ans, on observe une tendance qui s'inverse et qui ne s'inverse pas d'ailleurs que sur les éoliennes, également sur les panneaux solaires. Et pour la première fois cette année, on a vu le prix des batteries pour les véhicules électriques on a vu le prix de ces batteries remonter de 7%. C'est peut-être le début d'une tendance plus globale à laquelle il faudra faire vraiment attention.
Justement, vous parlez de tendance plus globale. On peut pas espérer un retour à la normale entre guillemets rapidement ?
Bah, c'est assez compliqué, Stéphane, parce que quand on regarde un petit peu les attendus, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Il y a un gros besoin en métaux pour construire tous ces panneaux solaires et toutes ces éoliennes qui consomment beaucoup plus de métaux que ce que consommait la production et la consommation d'énergie fossile. Donc c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, sur ce sujet, l'Agence internationale de l'énergie a sorti une nouvelle étude il y a quelques semaines sur le développement des technologies bas carbone. Et elle faisait remarquer que compte tenu des besoins générés par cette technologie, il allait falloir beaucoup plus de métaux. Et une des grosses inquiétudes, c'est que quand vous regardez les chiffres, on constate que dans le monde, pour développer une nouvelle mine, entre le moment où vous commencez à chercher un métal et le moment où votre mine produit, il faut en moyenne 17 ans. Et juste pour la partie études de faisabilité, obtention des permis, construction, eh bien, il faut en moyenne 7 à 8 ans dans le monde. Donc, on doit se dépêcher. Ce que disait l'Agence internationale à l'énergie dans son rapport, c'est que sur le cuivre, par exemple, nous avons jusqu'à 2025 pour lancer les projets nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs climatiques. Pour l'instant, quand vous regardez le carnet des projets en matière de cuivre, il y a un projet encore qui est attendu cette année, un gros projet qui est attendu cette année ou début d'année prochaine, et après, plus rien. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que malgré la hausse récente qu'on a pu connaître sur un certain nombre de métaux, prenons l'exemple du lithium, qui a beaucoup monté ces dernières années, eh bien, le carnet de nouveaux projets ne s'est pas étoffé. Donc on a une vraie dichotomie. Il faut pousser les acteurs miniers à investir davantage. Et je pense que pour ça, il y a un vrai rôle politique. On a vu que l'Union européenne, la Commission européenne avait décidé de se développer dans ce secteur avec le Critical Raw Material Act qui est lancé en 2023. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir flécher les investissements vers ce secteur, ne pas être schizophrène et pas dire on a besoin de métaux, mais les métaux, c'est pas propre. Et donc, il faudra, pour moi, d'une façon ou d'une autre, inclure les métaux dans la taxonomie, si on veut pouvoir s'en sortir.
Au-delà du problème de coût des matières premières, est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres freins au développement des énergies renouvelables ?
Oui, alors aujourd'hui, il y a ce frein politique qu'on évoquait, mais au-delà de ça, il commence à se faire jour un certain nombre d'autres problèmes qui expliquent aussi peut-être la hausse des prix, enfin le fait que la hausse des prix de ces technologies pourrait se maintenir pendant quelques temps. On a notamment dans le domaine éolien constaté que une grosse partie des économies d'échelle de ces dernières années était liée à la course au gigantisme. C'est-à-dire qu'on a fait des éoliennes de plus en plus hautes et de plus en plus puissantes. Simplement, les chaînes d'approvisionnement n'ont pas suivi et on constate aujourd'hui un taux de défaut sur ces éoliennes qui reste certes faible, mais de plus en plus important. Par exemple, une société productrice d'éoliennes européennes évoquait il y a quelques jours, lors de la présentation de ses résultats, que là où elle avait des primes d'assurance sur les dégâts sur ces éoliennes, qui étaient de l'ordre de 600 millions d'euros il y a en 2019 et 2020, aujourd'hui, ces primes sont montées à 1 milliard 200 millions d'euros. Donc, elles ont doublé. Donc, on a un vrai problème. Et c'est important parce que ça veut dire que ces sociétés envisagent maintenant de se stabiliser un petit peu, donc arrêter cette course au gigantisme. Or, Une grosse partie des économies d'échelle, je le disais, vient de cette course au gigantisme. Si on n'a plus ça et qu'en même temps le prix des métaux continue à progresser, on risque de se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Et puis il y a un dernier point qui est un point qu'on a déjà évoqué ensemble, Stéphane, qui est le point géopolitique. Ces derniers jours, la Chine a indiqué que compte tenu des sanctions prises par les États-Unis sur son industrie, et notamment dans le domaine des semi-conducteurs, eh bien, elle envisageait en rétorsion de limiter l'accès à ses brevets et à ses technologies et à sa machinerie dans le domaine des technologies renouvelables. Et ça, ça pourrait considérablement freiner notre développement, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une grosse partie des machineries dépendent de la production chinoise. Donc, on est dans une situation qui est relativement compliquée et il faut tout faire pour sauver cette industrie éolienne, sauver cette industrie solaire photovoltaïque, parce que la transition énergétique n'est pas une option, c'est une nécessité absolue.
Merci beaucoup, Benjamin Louvet, d'avoir été en duplex avec nous, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest Asset Management. Avant de parler de notre sélection, un petit coup d'œil à la Bourse de Paris. Le CAC est en progression et ça s'accélère un peu. On est pratiquement à 0,8% de hausse sur le CAC, 7188 points. Parmi les valeurs qui se distinguent, BNP Paribas continue sur sa lancée d'hier. Le titre gagne de nouveau 1,7%. Hier déjà, il était porté par les très bons résultats de l'entreprise. En progression également, Essilor Luxottica, plus 2,1%. Unibail, Rodamco, Westfield dans les centres commerciaux, plus 1,9%. Et progression également pour Airbus qui rebondit 1,5% de hausse. À la baisse, vous l'avez vu, une seule valeur désormais dans le rouge, c'est Total Energy. Ça ne paraissait pas évident ce matin puisque le groupe a annoncé des résultats annuels records. Mais le titre, lui, réagit à la baisse 1,6% de baisse. Il est 11h45, on va parler de notre sélection.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Notre sélection aujourd'hui, sélection du portefeuille BFM Patrimoine, avec nos deux invités au téléphone, Amandine Gérard, présidente de la financière de l'Arc. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Et Thibaut François, également en ligne, cofondateur et associé de Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Stéphane, bonjour Amandine.
D'abord peut-être un commentaire tous les deux sur la performance de notre sélection depuis le 1er janvier. 11,4% de hausse pour donner un repère. Le CAC, lui, n'a progressé que, entre guillemets, de 10,8% sur cette période. Amandine, un commentaire.
Oui, un bon début d'année pour nous, qui fait suite à une fin d'année de sous-performance. Donc on a une partie du portefeuille qui rattrape très nettement cette sous-performance. Je pense notamment à des titres comme Worldline qui affiche une hausse de 18% depuis le début de l'année, ou ST Microelectronics qui rebondit de 37%. Voilà, on a de nombreux titres en portefeuille comme ça qui ont nettement surperformé le marché. Et les deux seules lanternes rouges à ce stade sont Carrefour et Engie. Ce qui explique que malgré notre position de liquidité de 5%, on arrive à surperformer l'indice.
Un commentaire également, Thibaut.
Depuis l'année, on tourne entre 15 et 5% de cash dans le portefeuille. Malgré la hausse du CAC 40 de plus de 10 points, on arrive à surperformer le marché. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que les valeurs en portefeuille surperforment l'indice depuis le début de l'année. On a des gros rebonds, notamment, effectivement, Amandine le disait, sur la partie techno depuis le début d'année. Il est vrai que ça avait vraiment sous-performé l'année dernière. Et le discours, on va dire le discours de Monsieur Powell depuis quelques semaines va plutôt dans le sens d'un retour et d'un rebond de la partie tech depuis le début de l'année. On a des performances comme Capgemini qui gagne pratiquement 20%, STM effectivement, comme le disait Amandine, gagne plus de 35% depuis le début de l'année. On a Worldline qui gagne pratiquement 20% aussi depuis le début de l'année. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. Les publications d'entreprise en plus sont plutôt bonnes. Il n'y a pas d'alarmisme sur la partie 2023, donc c'est vrai que le marché a envie d'y aller. Et tant mieux pour l'ensemble des portefeuilles.
On va parler des décisions de gestion sur ce portefeuille. On le rappelle, il est géré à quatre mains. Vous êtes une partie de l'équipe. D'abord, vous êtes à l'achat sur Total. Ça veut dire quoi, Amandine? On va intégrer Total dans notre portefeuille, Total Energy?
Tout à fait. Alors, je vous entendais dire justement que vous étiez assez surpris par la correction de Total ce matin. C'était justement, entre guillemets, le pari d'hier, c'est de se dire qu'en fait, les résultats qui sont, comme vous le précisiez, excellents hein, et historiques, étaient très attendus par le marché. Donc, c'est ce qu'on constate dans les publications de ces derniers jours. C'est qu'en fait, les sociétés qui publient au-dessus ont tendance à faire l'objet de prises de profit. Et si on prend l'exemple de BNP hier, où les résultats étaient plutôt en demi-teinte, le titre prend plus de 3% sur deux jours. Donc, c'est lors de nos échanges, c'est ce qu'on anticipait sur Total. Et on profite de cette opportunité pour effectivement entrer le titre en portefeuille. On l'a eu précédemment, mais il est important de préciser aux auditeurs qu'il y avait un sujet de dividendes et Total distribué en fort dividende, on était pénalisé, puisque jusqu'à cette année, nous ne prenions pas en compte les dividendes dans la sélection.
Sauf que ça a changé.
Exactement, la règle a changé et c'est une des raisons pour lesquelles on re-rentre Total. C'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir pleinement bénéficier de sa performance. Et le second point, c'est qu'on pense que sur la problématique énergétique, et votre précédent intervenant le précisait, rien n'est terminé. Donc, les prix de l'énergie vont rester tendus. Et même si on a eu un hiver doux et qu'on est un peu dans le blue sky scénario pour l'Europe, on a toujours des sujets d'approvisionnement. Et Total va bénéficier non seulement d'un prix du pétrole qui devrait rester autour des 80 $, et en plus d'une partie transition énergétique avec de nombreux investissements.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Thibault François, un risque politique sur Total? Compte tenu des résultats qui ont été annoncés, on ne serait pas surpris, et Nicolas Dose nous le disait tout à l'heure, que le débat sur la taxation des super-profits refasse surface.
Oui, ça c'est un risque. Hein. De toute façon, le risque politique en France, il est toujours présent, peu importe l'entreprise. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de taper sur les entreprises françaises depuis quelques mois, voire depuis quelques années. On parle beaucoup d'LVMH et de la plus grosse entreprise au monde qui serait française. On parle aujourd'hui effectivement de Total. Hier, c'était EDF. EDF qu'on ressort de bourse alors qu'on l'a totalement décapité. C'est toujours un sujet en France, malheureusement. On se pose beaucoup moins de questions dans les pays anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Il faut se féliciter que des entreprises françaises aillent bien, aillent voir très bien. Effectivement, il y a un effet d'aubaine sur Total qui est évident. Ils investissent aussi énormément un peu partout dans le monde et aussi en France. Qu'il y ait des taxes sur les super profits, pourquoi pas. Par contre, après, effectivement, il faudrait aussi prévoir une loi quand l'effet d'aubaine ne sera plus là pour ce genre d'entreprise. Prévoir aussi des aides pour ces entreprises si effectivement le prix du baril ou le prix du gaz est beaucoup moins bien orienté dans les prochaines années. À voir effectivement, mais ça fera toujours partie des discussions en France, malheureusement.
Vous êtes à la vente sur Worldline. Ça veut dire qu'on va complètement le sortir du portefeuille, Thibault?
Oui, Worldline, on prise de bénéfices sur Worldline. On en parlait avec Amandine il y a quelques minutes. Les techs ont très bien monté et ont très bien performé ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis début octobre. Ça se passe bien sur Worldline. La publication devrait plutôt être solide en plus sur le T4. On prend des profits parce qu'on veut garder quand même une poche de liquidité autour de 5%. Donc c'est vraiment un arbitrage. Donc on entre Total et on sort Worldline. On pense qu'il y a plus de potentiel sur Total dans les prochaines semaines. Ça ne veut pas dire que Worldline, les fondamentaux se sont dégradés. C'est juste un arbitrage dans le portefeuille. Toujours confiance sur le dossier Worldline qui a quand même nettement sous-performé ces deux ou trois dernières années. Mais c'est un arbitrage tactique qui est réalisé dans le portefeuille.
Amandine, ça ne remet pas en cause la qualité de la valeur. Simplement, c'est vrai que Worldline a gagné 19,4% depuis le début de l'année.
Oui, aucunement. Thibault vient de le dire, il y a encore du chemin à faire sur Worldline, notamment du fait de la restructuration, de la cession de l'activité des terminaux de paiement. Ici, on est plus dans une approche opportuniste. On l'a dit, on surperforme un indice qui fait un très bon début d'année. Donc, on essaye d'être très actif sur le portefeuille. Mais en l'occurrence, à la financière de l'Arc, nous sommes actionnaires de Worldline et nous le restons. Donc, si les auditeurs ont la possibilité d'avoir les deux, et Total et Worldline,
Worldline très bien. Toutefois, sur Worldline, à court terme et sur la publication des résultats à venir, on n'attend pas de très bonnes surprises. Donc, encore une fois, c'est plus de l'opportunisme tactique qu'une véritable conviction de vente sur Worldline.
J'imagine, Amandine, que c'est exactement le même raisonnement pour l'arbitrage que vous avez fait entre Ipsos et Publicis. Publicis, c'est 24% de hausse pratiquement depuis le 1er janvier. C'est spectaculaire.
C'est d'autant plus spectaculaire que dans le secteur des agences publicitaires, c'est un secteur qui est très conditionné au cycle économique et on a quand même beaucoup d'incertitudes. Or, on voit que les investissements des entreprises demeurent. Donc, très belle performance de Publicis depuis le début du deuxième semestre. Donc là, on ne voit effectivement que la performance du début d'année, mais au quatrième trimestre, Publicis avait déjà surperformé. Donc, effectivement, là encore, et ça c'est plutôt un secteur de prédilection de Jean-François, qui a suggéré qu'on arbitre Publicis pour Ipsos, puisque la seconde a plus de retard, et il y a eu unanimité, hein, clairement, puisque Ipsos, au sein du même secteur, bénéficie notamment d'un changement de gouvernance. Et c'est vrai que c'était, une grosse épine dans le pied d'Ipsos. Pas mal d'investisseurs anglo-saxons attendaient qu'il y ait de l'évolution sur la gouvernance. Et c'est le cas depuis un peu plus d'un an. Ça plaît beaucoup et les fondamentaux de la société sont très bons.
Pourquoi Ipsos, Thibault ?
C'est encore une fois, là, c'est vraiment un changement, c'est vraiment un arbitrage dans le même secteur cette fois. Donc, on a eu une super publication de Publicis qui en a vraiment bénéficié à court terme. Les fondamentaux de Publicis, c'est pas un sujet. C'est pas forcément une vente de Publicis. C'est vraiment un arbitrage pour Ipsos qui n'a pas encore publié, qui publiera dans une dizaine de jours. Ils publieront le 15 février. On attend encore une bonne publication d'Ipsos, effectivement, qui bénéficie d'un bon momentum depuis un peu plus d'un an. La gouvernance a changé, les résultats se sont redressés. On attend une bonne publication T4 et des bonnes perspectives sur l'année 2023. Le titre devrait bien réagir par rapport à cette publication qui va intervenir dans une dizaine de jours. Donc, arbitrage aujourd'hui au bénéfice d'Ipsos, sachant que les fondamentaux sur Publicis et Ipsos sont vraiment excellents et c'est pas vraiment une dégradation de Publicis, c'est vraiment un arbitrage pour Ipsos qui devrait bénéficier d'un momentum publication à court terme.
Mais vous pensez que pour l'instant les perspectives d'évolution à court terme sont limitées pour Publicis ou est-ce que simplement on est obligé dans la gestion de notre portefeuille de faire un arbitrage?
Là, c'est un arbitrage. On veut vraiment garder 5% de cash dans le portefeuille. Donc, on ne veut pas alourdir le portefeuille et être à 100% investi autour de 7200 points sur le CAC 40. Donc, on voulait vraiment sortir une ligne et la publication de Publicis nous permet de sortir Publicis dans d'excellentes conditions. La performance est vraiment très bonne à court terme. Et Publicis gagne d'ailleurs un peu plus de 23% depuis le début d'année, donc c'est plutôt une bonne sortie pour le dossier Publicis.
Amandine, vous savez, on aime bien aller voir ce qui se passe en coulisses, mettre le nez en cuisine. Est-ce qu'il y a des propositions qui n'ont pas été retenues ?
Alors, je dois dire que le consensus de ce début d'année est à l'image de l'optimisme du marché. On est plutôt d'accord tous en ce début d'année. Après, bien entendu, il y a beaucoup de propositions. Donc, en ballotage défavorable en ce moment, on a Airbus et L'Oréal, mais il n'y a pas de consensus sur le sujet. Dans le cas d'Airbus, c'est Jean-François qui souhaiterait la sortir, je pense.
Jean-François
Gilles, tout à fait, a une surperformance de l'année dernière. Il y a un risque sur la publication, puisque on sait qu'Airbus risque de décevoir sur le séquençage des livraisons, hein, puisque les carnets de commandes sont toujours très solides. Et de mon côté, pour des problématiques de valorisation, j'aurais plutôt envie de sortir L'Oréal. Alors, c'est vrai que L'Oréal, c'est la réouverture de la Chine, mais on est déjà très exposé au travers d'LVMH et Pernod Ricard sur le portefeuille. Et L'Oréal est très cher en valorisation, donc j'avais proposé une sortie de L'Oréal qui n'a pas été retenue par mes camarades.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette sélection. Amandine Gérard, présidente de la financière de l'Arc, et Thibault François, cofondateur et associé chez Fastea capital. 11h57, dans un instant, 90 minutes business avec, comme tous les jours, Sandra Gondouin.
Bonjour
Sandra.
Stéphane.
Et toute son équipe. Quel est le sommaire aujourd'hui?
On va revenir sur Total Energy qui dégage le bénéfice le plus important de son histoire. On va en parler avec Mathieu Pechberti. On parlera aussi des très bons résultats. Société Générale avec Caroline Morisseau. L'air, également l'aérien, se porte bien, notamment les liaisons interrégionales, même si elles ont été mises en concurrence avec la SNCF. Ça résiste. Et puis la bataille de l'intelligence artificielle, ce sera l'objet de notre débat et de notre focus aussi avec Frédéric Simotel.
Avec un point intéressant pour vos résultats dont vous allez parler, Total Energy perd 1,7%, Société Générale perd 0,3%, et pourtant, les chiffres sont assez solides de part et d'autre. Donc à suivre, 90 minutes business sur l'antenne de BFM Business. Je vous souhaite une très bonne journée. L'info boursière revient tout à l'heure à 15h.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.